Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures Urbaines. Nous sommes très heureux de vous retrouver, alors sans plus attendre, notre billet.
Nature Urbaine, le billet vert.
Et c'est un billet carrière, car nous sommes à quelques jours de deux anniversaires. Le premier, immuable, est l'arrivée du printemps, la saison où, dit-on, la nature se réveille, après les frimas de l'hiver qui lui sont ô combien nécessaires. Le second anniversaire, inédit, est l'apparition dans nos vies du confinement. La crise sanitaire est une autre forme d'épreuve qui s'avérera peut-être un moment salutaire. Comme le froid hivernal permet à l'arbre un obligatoire repos et au bulbe une indispensable vernalisation. Depuis un an, et surtout au début de la crise, les observateurs ont beaucoup disserté sur la renaissance, l'émergence d'une ère nouvelle, le monde d'après. Et qu'il est difficile, même lorsque l'on sent des changements se produire, de les qualifier, de dater précisément les ruptures et surtout de prévoir ce qu'il va advenir de notre environnement. Heureusement, il y a l'histoire et les mémoires. Dans cette réflexion sur l'après, étalée sur les ondes, les réseaux et les papiers, rarement la nature et l'envie de faire, F-A-I-R-E, n'ont été aussi présentes. Comme le chante le groupe Feu Chatterton dans le premier extrait de son nouvel album, Monde Nouveau, un monde nouveau, on en rêvait tous, mais que savions-nous faire de nos mains? Pour ce billet, j'ai donc choisi de vous lire quelques pages du Vin bourru, morceau d'enfance d'un immense auteur récemment disparu, je veux parler de Jean-Claude Carrière. Oui, d'aucuns diront que je verse une fois encore dans la chronique nécrologique, mais je l'assume. Carrière était né au milieu de la nature, avec des guillemets, et s'amusait souvent, au cours d'entretiens, à dire qu'il était probablement le seul écrivain de sa génération à savoir encore conduire un cheval de trait. Il a donc vu la nature et il a pu faire. Né dans le Haut-Languedoc, d'une famille de vignerons, il relate dans le Vin bourru son enfance dans les années 30, juste avant la guerre, juste avant de monter à Paris, suivre ses parents et, grâce à l'école de la République et à son talent, de devenir un génial alchimiste des mots qui s'est illustré dans des arts aussi divers que sa curiosité était vaste. Les circonstances qui ont déclenché l'écriture de ce livre sont les suivantes. Au cours d'une visite d'un écomusée dans les années 80, bien loin de son pays natal, en Alsace, Carrière est frappé de voir son enfance exposée au musée. Un peu plus d'un demi-siècle après sa naissance, sa vie était déjà un objet de curiosité. Il dit « Je fus frappé par cette soudaine accélération, non pas du temps, dont la course reste invariable, mais de l'apparence des choses. » Plus loin, il ajoute « Je me dis alors que dans aucune époque, dans aucun pays sans doute, pareil changement n'avait été aussi sensible, aussi brutal et aussi calmement accueilli par tous. » Quelle résonance, vous ne trouvez pas? Carrière relate son enfance, proche sous certains aspects de la vie au Moyen-Âge, et s'interroge. Il est loin d'être passéiste, lui qui a d'ailleurs été souvent à l'avant-garde par la diversité de ses activités et de ses influences, en traduisant sans relâche des récits orientaux, mais aussi dans ses collaborations avec des cinéastes comme Tati ou Buñuel. Extrait choisi, à dessein. L'enfant apprend d'abord à faire des tris. Il apprend à distinguer les bons champignons des mauvais, les châtaignes saines des véreuses, les lentilles des petits cailloux gris. Il voit très vite que tout n'est pas bon dans la nature. Il doit éviter de sucer la fleur de ciguë qui est dangereuse ou de marcher jambes nues dans un buisson d'ortie. Plus loin, que toutes les plantes ont besoin d'eau et que certaines choses, qui à première vue paraissent utiles, peuvent dissimuler un danger. Les abeilles, par exemple, donnent du miel et en même temps, elles piquent. La campagne ne va pas sans un certain nombre de contradictions. Et il conclut ce chapitre. Aujourd'hui, je suis très étonné par la masse de choses qui m'ont été apprises et qui, par la suite, ne m'ont servi à rien. Né dans une culture, j'ai vécu dans une autre. Je dis des choses qui ne m'ont servi à rien. En apparence, oui. Mais au fond...
Nature Urbaine, l'interview, première partie.
Alors, notre invité du jour n'a que deux bras et deux jambes, et pourtant il murmure à l'oreille, ou plutôt au tympan, d'individus qui, vous entendez bien, sont munis de six membres articulés. Pas étonnant qu'ils réussissent à être, parfois, partout à la fois, comme aujourd'hui, où il a quitté un conseil d'administration pour rejoindre notre réunion de son. Son organisme, du moins celui qu'il dirige, dispose de plusieurs antennes. Ses yeux sont tellement bleus, et là je parle bien de notre invité, qu'on pourrait penser qu'ils sont plus que deux. Chez ses amis, chacun est d'ailleurs composé de plusieurs milliers de petits yeux, les omatidies, du moins m'a-t-on dit. Avec sa barbe et sa petite boucle d'oreille, il a un air de rocker. Et ce n'est pas parce qu'il passe une partie de son temps dans le parc du peuple de l'herbe qu'il faut tout de suite imaginer qu'il consomme cette dernière en la faisant se consumer. Bonjour Samuel Jolivet.
Bonjour Pierre.
Alors Samuel, vous dirigez l'association référente en France, on peut le dire, qui s'intéresse, vous l'aurez deviné, chères auditrices et chers auditeurs, aux insectes. Il s'agit de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Alors première question, qu'est-ce qu'un insecte ? Je crois savoir qu'il s'agit d'invertébrés, mais ça n'est pas franchement très parlant.
Ben donc c'est des petits êtres vivants qui ont un squelette externe, pas un squelette interne, qui se reconnaissent effectivement au fait qu'ils ont 6 pattes. Un corps en 3 parties, une tête, un thorax qui porte les pattes et les ailes quand il y en a, et un abdomen. Et voilà, ça, c'est les caractéristiques principales de ces bestioles qui sont les maîtres du monde, nous a-t-on dit.
Les maîtres du monde parce qu'elles sont très nombreuses ?
Très nombreuses, oui.
On en dénombre...
On est sur 70% des espèces animales connues sur Terre qui sont des insectes. On en dénombre plus d'un million. On estime qu'il y en a presque 2 millions à décrire, que la science a encore beaucoup de travail à faire. Et en France, on est entre 40 000 et 50 000 espèces, rien que sur notre territoire métropolitain.
Et les insectes sont les maîtres du monde depuis très longtemps, je crois. Ils sont là depuis de très nombreuses années.
Depuis de très nombreuses années. Mais alors, par contre, là, c'est, tu m'excuseras, mais ce n'est pas du tout ma spécialité. Je ne saurais pas donner en quel... jusqu'à quand on a trouvé des fossiles d'insectes.
Nous n'allons pas faire d'histoire et d'archéologie. Alors, les insectes, c'est une grande classe d'animaux, si on peut dire. Et comme dans toutes les grandes familles, elle est faite de parenté, mais aussi de diversité. Combien on pourrait dire qu'il y a de grandes catégories dans les insectes ? Et puis, est-ce qu'on peut donner quelques exemples précis d'insectes connus pour nos auditrices et nos auditeurs ?
Oui, on peut le faire, puisque la science s'y est intéressée depuis très longtemps. Hein. On a classifié le vivant et les insectes en particulier. Donc, une des catégories les plus connues et qui est aussi la catégorie la plus nombreuse, ce sont les coléoptères. Qui portent des élytres rigides, donc comme la coccinelle, le scarabée, le lucane cerf-volant, enfin ce genre de coléoptères qui sont bien connus du public. On a aussi les papillons, diurnes, nocturnes, ceux qui vivent le jour, ceux qui vivent la nuit. Les mouches et tout le cortège des diptères, puisqu'ils n'ont que 2 ailes, ceux-là, donc mouches, moustiques, syrphes, tipules, cousins, etc. On a les libellules, mon insecte fétiche,
ah oui.
qui passe toute sa vie larvaire dans l'eau et qui émerveille les bords de rivières et d'étangs au moment de l'été. Dans les insectes aquatiques, il y en a encore tout un tas. Hein. Les trichoptères, alors là, on rentre dans le compliqué, mais c'est des petites bestioles qui font un fourreau à l'état larvaire qu'on appelle les porte-bûches ou les traîne-bois. Les pêcheurs les connaissent bien. Puis des gamins qui ont eu l'occasion de jouer dans des ruisseaux, en général, se sont amusés avec. Et puis les éphémères, les perles, les sauterelles, les criquets, les grillons, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup d'insectes.
Il y en a beaucoup. Et alors, on est au printemps, on les voit parfois sortir. Et en ce moment, c'est normal, ils sont là pour faire respecter le couvre-feu. Les gendarmes, ce sont des insectes ?
Ouais, ce sont des insectes à livrée rouge et noir. Mais ce sont des punaises. Une espèce de punaise qui a un rôle de détritivore dans les jardins, en fait, qui va manger la matière organique et la décomposer.
Alors, on va revenir sur les rôles extrêmement importants des insectes, si tant est qu'on soit obligé de leur donner une utilité pour les protéger, on en parlera. L'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, a été créé en 1969, je crois, notamment par d'anciens de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, qui s'appelle maintenant « et de l'environnement », ce « e » que l'OPI arbore pratiquement depuis le début de son histoire. En quelques mots, quelles sont les missions de l'Office ?
Eh bien, depuis le début, on a deux axes qui sont indissociables. D'un côté, avoir une connaissance scientifique et de spécialistes sur les insectes, leur répartition, leur vie, etc. Et de l'autre côté, faire de l'éducation à l'environnement. Expliquer au public, au plus grand nombre, à tous ceux qui veulent pouvoir connaître des choses et en apprendre sur les insectes, des choses d'une manière simple et accessible. Donc ça a été la base de la création de l'OPI. En fait, le postulat qui a poussé les créateurs à faire cette association, c'était qu'on ne parlait d'insectes que comme des nuisibles ou des ravageurs. Et qu'il fallait absolument pouvoir en parler pour montrer leur rôle essentiel dans les écosystèmes, la place prépondérante qu'ils ont dans l'équilibre de la vie et tout l'intérêt qu'il y a autour des insectes. Et cette idée, en 1969, c'était relativement novateur. Maintenant, quand on en parle, ça fait sens, les gens le comprennent, mais il y a eu quand même du chemin avant que ça soit aussi évident pour la plupart des gens.
Donc, d'un côté, un pied, si je puis dire, l'expertise, la connaissance scientifique, on va y revenir, et puis de l'autre, la pédagogie. Il me semble qu'il y a une mission, une façon de procéder que vous connaissez bien, qui s'appelle les sciences participatives. On pense notamment au SPIPOL, je vais vous laisser expliciter cet acronyme qui est assez rigolo et facile à retenir. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ?
Alors le SPIPOL, c'est un programme pour devenir le paparazzi des insectes. C'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Tout simplement, donc là, c'est un projet de science participative qui vise à appeler le public, le grand public, les gens qui n'y connaissent rien, à participer à un petit protocole très simple pour que derrière, on puisse avoir énormément de données. Données avec lesquelles les chercheurs vont pouvoir faire tourner des modèles mathématiques, etc., et avoir des informations très importantes sur l'état des réseaux de pollinisation, la présence des espèces, des choses à grande échelle qu'on a beaucoup de mal à faire si on n'utilise que des spécialistes. Donc c'est ça, hein, le principe de la science participative, amener un public qui est complètement un culte, quelque part, à participer à une mission d'envergure pour faire avancer la science. Et donc là, avec ce SPIPOL, qui a eu 10 ans l'année dernière, on a un petit protocole très simple. On se met devant un parterre de fleurs qu'on choisit, et puis on va prendre en photo le parterre dans son ensemble. Et ensuite, pendant 20 minutes, on va prendre en photo tous les insectes qui se posent sur les fleurs. On ne cherche pas à savoir s'ils pollinisent vraiment ou quoi, mais tout ce qui se pose sur les fleurs, on les prend en photo. Ça constitue une collection. Il y a une interface Internet qui permet ensuite de charger ces photos et de faire le tri, et ensuite de le transmettre. Et on a participé au SPIPOL. Depuis l'année dernière, en plus, on a développé une appli smartphone qui marche très bien, qui a vraiment donné un coup de boost au programme, et ça nous fait vraiment plaisir, qui permet de faire tout de A à Z avec son téléphone. Maintenant, il y a des appareils photo embarqués complètement dingues, de la mémoire, tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, rien qu'avec un smartphone
classique,
on peut y participer.
Donc, il n'y a plus désagréable. On prend 20 minutes de pause. On entend beaucoup en ce moment, depuis le fameux monde d'après, le fait de se reconnecter à la nature, on se pose pendant 20 minutes devant un parterre de fleurs et on regarde et on prend en photo tout ce qui passe.
Voilà.
C'est merveilleux.
C'est d'autant plus merveilleux que c'est un programme qui est complètement addictif, puisque on se met à découvrir des choses qui ont toujours été à côté de nous et qu'on n'a jamais vues. Parce que là, les participants, et c'est vraiment un retour qu'on a de manière unanime, ils deviennent complètement accros parce qu'ils découvrent, ils découvrent, ils découvrent, ils apprennent. La communauté est vachement entraidante, en fait, et quand un nouveau arrive et qu'il commence à mettre ses collections à disposition de la communauté, les vieux de la vieille vont lui filer un coup de main pour lui dire « Ah bah tiens, ça, là, t'as dit que c'était... » ce genre d'insectes, mais en fait, regarde, à cet endroit-là, ça va peut-être t'aider à voir que c'est pas ça. Parce qu'il y a aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi un outil qui permet de déterminer les photos qu'on a faites, et qui est un outil qui se sert de caractères ultra visibles, pas du tout entomologiques, qui permet à n'importe qui de regarder des choses simples, et en plus qu'on peut faire avec un ordre qui nous est propre. Si on voit en premier les ailes, on sélectionne le critère aile. Si c'est les antennes qui nous ont intrigués, on sélectionne le critère antenne. Et voilà.
Donc c'est l'entomologie, la science des insectes, à la portée de tous. Et alors ces utilisateurs, ces participants qui deviennent addicts, est-ce qu'on a une idée de leur profil? C'est monsieur et madame tout le monde, comme on dit?
Oui, c'est quand même pas mal de gens qui sont installés dans la vie. C'est pas des tout jeunes. On a eu beaucoup de gens qui venaient du milieu de la photo au début. Et puis une communauté assez solide. Une bonne... 300 ou 400 participants, je crois, qui font vraiment le noyau dur de la communauté. Et puis là, ça a explosé avec le confinement et l'arrivée de l'appli. Et je pense qu'on va voir arriver des profils différents maintenant. Mmh.
On est à quoi? On est à plusieurs milliers aujourd'hui d'utilisateurs?
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, branchez-vous sur Spipol. Et alors, je me souviens des tout débuts. Il y avait un petit peu de scepticisme de la part de certains scientifiques en disant « mais comment est-ce qu'on va utiliser cette donnée amateur avec les approximations que ça peut comporter, avec, comme vous l'avez dit, un matériel qui était peut-être moins facile à utiliser qu'aujourd'hui ?» Aujourd'hui, les scientifiques se servent véritablement de cette source d'information?
Bien sûr, bien sûr. Nous, une des choses qui nous semblait vraiment très robuste dans ce programme, c'était qu'on était certain de conserver les photos, de les avoir en base de données, en banque de données, et de pouvoir revenir dessus. Donc de pouvoir vérifier toute donnée. En plus, la pratique évolue. À une époque, on n'admettait pas de pouvoir valider un insecte sur photo. Mmh. Les insectes, c'est compliqué. Les spécialistes ont besoin de regarder des détails extrêmement ténus, d'utiliser une loupe binoculaire, voir un montage sous microscope, etc. Donc vous pensez sur l'appareil photo de monsieur ou madame tout le monde, qui en plus ne sait pas où sont les critères. Ça a levé pas mal de scepticisme dans les sphères spécialisées. Mais on s'aperçoit à la pratique que finalement, si on reste raisonnable, on n'a pas besoin d'aller forcément jusqu'à la détermination de l'espèce, et qu'il y a énormément de photos qui sont utilisables, qui apportent vraiment une information. Et pour la petite anecdote, il y a des insectes qui ont été redécouverts et qui n'avaient pas été vus depuis 150 ans en France. C'est ça qui fait la robustesse de ces projets. C'est que comme il y a énormément de gens motivés qui partagent en plus ce qu'ils ont vu, du coup, les spécialistes, quand ils vont voir juste les groupes qui les intéressent, de temps en temps, ils s'arrêtent et ils font « Ah, là, on a quelque chose ». Et donc ça c'est vraiment amusant, parce que ça permet de rejoindre toutes les communautés, en fait.
Et puis, de parcourir l'ensemble des territoires, c'est... Nous sommes aussi sur les antennes de Radio Territoria, et de croiser en fait ces données entre certaines espèces et certains territoires donnés. J'imagine que ça fait partie des...
Tout à fait, ça fait partie des sujets qui sont traités par les chercheurs du muséum, hein, de réfléchir à ce que nous apprennent ces bases de données sur la présence d'une espèce au niveau national. Et puis après, de croiser avec les cartographies des milieux naturels pour pouvoir avoir d'autres informations qui souvent sont connues, mais qui permettent d'objectiver là où on trouve ces espèces.
Alors justement, on parle de décompte. Je vais donner quelques chiffres sur le constat. Vous attendez forcément cette question, vous aussi qui êtes derrière votre transistor. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, dont le congrès devrait avoir lieu à Marseille peut-être au mois de septembre 2021, a récemment publié un rapport alarmant à propos de ce qu'on appelle la liste rouge des espèces. Et les insectes, je crois, ne font pas exception à la règle de l'ensemble du vivant. En 2019, et ça avait fait un grand retentissement, puisque l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, alertait sur la disparition annoncée de plus d'un million, je crois, d'espèces, de manière certaine. C'est un rapport qui avait été remis au président Macron. En janvier 2021, j'ai pu lire également que l'Académie des sciences avait publié un avis alertant sur le déclin des populations d'insectes. Qu'en 2017, une étude avait montré que 75%, je crois, des insectes volants avaient disparu en Allemagne. On parle aussi d'une diminution de 67%, donc à peu près les mêmes proportions de la biomasse d'insectes sur une période assez comparable. Bref, les chiffres sont nombreux. En résumé, qu'est-ce qu'il se passe ? Et un peu la même question qu'à Jean-Philippe Ciblet, qui était notre premier invité en novembre 2019. C'est grave, docteur ?
Ouais, oui. C'est très grave, effectivement. La disparition des insectes et l'effondrement de la biodiversité, qui sont complètement corrélés, c'est quelque chose que les spécialistes observent déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Quand je suis arrivé à l'OPI, je me rappelle de discussions de retraités spécialistes de tel papillon ou de tel coléoptère qui partageaient le constat que sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter dans leur enfance et sur lesquels ils retournaient à l'heure actuelle, ils ne voyaient plus les insectes qu'ils voyaient avant et en tout cas, ils en voyaient beaucoup moins. Et donc c'est un bruit qui agite notre communauté depuis des années et des années et là, avec ces publications, enfin, on a des choses factuelles, scientifiques, qui montrent et qui donnent un chiffre sur la disparition. Et alors ce 70%, parce que l'étude qui a fait le premier pavé dans la mare est presque celle qui a fait le plus de bruit, c'est celle de la Krefeld en Allemagne, là, où ils ont montré que sur une série de 30 ans, en utilisant un piège qui s'appelle la tente malaise, alors on pourra le détailler plus tard, mais c'est pas ça le plus intéressant. Ils ont eu une série de piégeages complètement identiques sur des milieux protégés pendant 30 ans. Et ils ont eu l'idée de se servir de ces piégeages pour peser le poids et donc avoir une idée de la biomasse. Et c'est là qu'ils ont sorti ce chiffre de 70% de perte en 30 ans, sur des milieux protégés en plus.
Donc ça, sur des milieux protégés.
C'est complètement abyssal, ça fait vraiment peur d'avoir ce genre d'informations. Et là, on doit vraiment leur tirer notre chapeau parce que d'un point de vue d'entomologiste, en fait, quand on utilise des tentes malaises, c'est des pièges qui sont...
Comment ça fonctionne en quelques mots.
En quelques mots, il faut se rappeler des tentes canadiennes qui existaient dans les années 80. C'est deux piquets, une espèce de toile de tente au-dessus, mais qui est coupée très très tôt, qui fait juste un petit chapeau, et puis un drap au milieu qui fait barrière. Donc c'est un espèce de piège à interception, c'est-à-dire que les insectes volent dans le milieu, tapent contre la toile, et par réflexe remontent. Et donc, ils sont guidés petit à petit par la forme du piège vers un endroit où ils vont finir par tomber dans un flacon. Et donc, on récolte ce flacon rempli d'alcool avec des milliers d'insectes à l'intérieur, de tous les ordres, divers et variés. Et donc, c'est le genre de piège, en fait, qui est extrêmement informatif sur la biodiversité d'un milieu, mais qui coûte une fortune à traiter. On peut jamais mettre en place ce genre d'études parce que derrière, il y en a pour des jours et des jours de laboratoire, de tri de techniciens, de détermination de spécialistes. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable et qui est en plus très mortel, en fait, pour les populations d'insectes locales. Ouais. Et donc, voilà. Donc, plutôt que de laisser pourrir ces culots qui n'auraient jamais servi à rien parce qu'ils n'auraient jamais eu les moyens de les valoriser, ils ont eu l'idée de les peser et ça a donné ce résultat. Et là, je leur tire mon chapeau. Là où je suis un peu plus dans l'expectative, c'est que cette expérience a fait tellement de bruit que du coup, certaines structures se sont dit « bon, on va continuer à la faire ». Et là, on peut se demander pourquoi. Mmh. On sait, maintenant on sait que les insectes ont disparu. L'idée, c'est pas de continuer à mesurer leur disparition. L'idée, c'est de pouvoir objectiver la remontée des populations, la réappropriation des milieux, etc. Et continuer à tuer comme ça, à grande échelle, des insectes juste pour peser le poids, en sachant très bien qu'on n'en fera que ça.
Ça pose question.
Ça pose question. Mmh. Et bah, nous, on se l'est posé. On a décidé qu'on ne participerait pas à ça.
À ce protocole. Ah. Alors, dans cette diminution alarmante des insectes, on distingue d'une part la perte, la disparition, l'effondrement de certaines espèces, mais aussi dans des espèces plus communes et largement répandues, la diminution des effectifs, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. La diminution est globale, générale.
Générale.
Quelques-unes
en diversité, en quantité.
Quelques-unes tirent leur épingle du jeu. Il y a toujours la nature horreur du vide. Hein, donc, quand les niches sont laissées libres, il y en a d'autres qui en profitent. Et puis, les très généralistes arrivent toujours à mm-hmm. tirer mieux leur épingle du jeu que les spécialistes. Mais on reste sur ce constat global d'une diminution des populations.
Et alors, l'OPI s'intéresse aux insectes et à leur environnement. Vous avez un peu esquissé ces facteurs environnementaux. Est-ce qu'on a aujourd'hui, on commence à avoir une idée précise des facteurs qui sont responsables de ce déclin ? Le climat, l'intervention humaine, tout ensemble ?
C'est forcément des facteurs d'origine humaine. Hein. Mais ce qu'on arrive à objectiver correctement maintenant, c'est que les principaux facteurs, c'est la disparition des habitats. Donc l'artificialisation, la fragmentation des habitats qui fait que les populations sont plus fragiles, et puis l'utilisation de la chimie reine dans l'agriculture moderne. Ça, c'est vraiment le facteur le plus impactant qu'on peut arriver à retracer en Amérique du Nord, en Europe, enfin, dans les pays développés. Viennent derrière le réchauffement climatique, mais je dirais que c'est la seconde couche, quoi. C'est une conséquence du début. Et puis les espèces allochtones qui sont souvent citées, mais pour les insectes, c'est une problématique qui est assez minime, sauf en milieu aquatique.
Le tableau est dépeint avec gravité, il ne s'agit pas de l'oublier, on va y revenir et voir peut-être quels sont les leviers pour enrayer, endiguer au moins pour partie ce déclin, en attendant une petite respiration avec une escapade musicale.
Nature urbaine, le reportage.
Alors une escapade musicale, c'est une forme de reportage qui nous emmène aujourd'hui outre-Manche. Je l'ai d'abord choisi pour sa sonorité, l'ayant écouté récemment, à la radio évidemment. À bien y réfléchir, il ne s'agit peut-être pas seulement d'un hasard. D'abord parce qu'elle est signée d'un groupe dont le nom serait un mélange de scarabée et de rythme, les Beatles. Une chanson écrite par George Harrison avec le concours d'Eric Clapton sur la Gibson Les Paul de couleur rouge, appelée Lucy. Lucy, la fameuse qui a inspiré avec Lucy in the Sky with Diamonds, autre titre célèbre des Beatles, le nom d'un de nos ancêtres, Australopithèque, et, clin d'œil à l'Australie, le prénom de ma petite sœur. Au moins, ça nous fait une auditrice très très loin. While My Guitar Gently Weeps, c'est le nom de la chanson que nous allons écouter, nous ramène aux origines de l'OPI, puisqu'elle fait partie de l'album blanc du groupe de Liverpool qui a paru fin 1968, quelques mois à peine avant la création de l'Office. Un album écrit à Kinphones, la maison de George Harrison dans le Sussex, alors que le groupe revenait d'un voyage en Inde. Et je vous conseille d'ailleurs de visionner l'une des nombreuses démos de ce séjour avec une pochette qui montre le groupe dans un jardin de la résidence de George, assis sur la pelouse dans laquelle est planté un panneau « Please keep off the grass ». Quelle subversion, les Beatles ! L'Orient a, on le sait, beaucoup inspiré George Harrison. Il a découvert le principe chinois d'I Ching dans le livre des transformations. Et il a écrit cette chanson en prenant deux mots au hasard. Gently, doucement, et weeps, pleure. Harrison disait, en Occident, une coïncidence, c'est simplement quelque chose qui arrive. En Orient, tout ce qui arrive doit arriver. Tout ce qui se produit a une raison d'être.
Nature urbaine, l'interview, deuxième partie.
Eh oui, cette chanson qui nous dit que les hasards sont peut-être moins hasardeux qu'il n'y paraît, c'est probablement le cas dans la disparition des insectes que l'on semble découvrir comme si elles n'avaient jamais existé. Samuel Jolivet, nous sommes avec vous aujourd'hui de retour sur le plateau de Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville pour parler d'insectes. Alors avant de revenir sur peut-être une note positive et les leviers d'action en faveur de la protection des insectes, parlons un petit peu plus de vous. Après une formation universitaire en écologie à Paris, vous rejoignez Toulouse et vous réalisez un Master 2 en hydrobiologie avec pour objet d'étude, nous y arrivons, les insectes aquatiques et la qualité des eaux stagnantes. Vous intégrez ensuite l'OPI il y a tout juste 20 ans. Vous étiez alors un emploi jeune, vous l'êtes resté. Depuis, vous avez navigué dans les mares et dans les courants d'une association de protection de la nature. Et c'est pas toujours facile, je crois. Alors, quels seraient, d'après vous, première question, les principaux apports de votre formation initiale en écologie ? Et est-ce que ce serait à conseiller pour l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs ?
Ça, c'est une bonne question. J'étais un étudiant tout à fait médiocre, il faut bien le dire. Et je me suis vraiment réalisé à partir du moment où j'ai pu être sur de l'appliqué, sur des travaux de terrain. J'ai eu la chance dans mon parcours en fait de faire des stages non obligatoires, de voir un peu comment ça se passait, parce que bon, à cette époque-là, franchement, les débouchés en écologie n'étaient pas pléthores. Le milieu bancaire, informatique recrutait pas mal. Donc souvent, quand on avait un parcours universitaire pas top et qu'on se sortait pas dans la voie qu'on avait choisie, on rebouclait là-bas. Et donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Demanger, grand spécialiste des libellules, qui était un agent de l'INRA dans un stage que j'ai fait et qui m'a présenté l'OPI. L'OPI, je connaissais pas. Moi, à cette époque-là, j'étais plus sur les oiseaux, adhérent de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. En fait, énormément de ce que j'ai appris, de ce que je connais, c'est des choses que j'ai appris par moi-même ou sur le terrain ou avec d'autres passionnés, des spécialistes. Ma formation universitaire, j'en retiens les cours de François Ramad, hein, grand spécialiste en écologie, et les bouquins qu'il avait écrits que j'ai dû ingurgiter pour passer les partiels avec beaucoup de difficultés parce que c'était pas du tout ma tasse de thé. Beaucoup de choses ont dû faire écho en fait à cette période-là entre ce que j'avais en cours et ce que j'apprenais de manière beaucoup plus facile dans l'appliquer. Donc je ne sais pas si c'est un vrai conseil à donner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, quelques formations que ce soit préparent les gens à avoir un niveau. Et pour trouver un job, et en particulier dans les milieux naturalistes, on attend ça. Parce que maintenant, c'est vrai que les milieux se sont quand même vachement professionnalisés par rapport à ce que c'était à l'époque. Mais on attend aussi des gens qui ont su faire preuve de curiosité, qui ont su aller chercher eux-mêmes, qui ont su sortir du cadre. Et un CV qui arrive avec un parcours universitaire impeccable, mais aucune expérience associative à côté, eh ben, c'est pas un bon CV. Le milieu associatif, le passage de connaissances de spécialiste à jeune qui a envie d'apprendre est hyper important. Puis je crois que maintenant, en plus, avec les forums et tous ces outils de partage qui permettent aux gens de se rencontrer par l'intermédiaire d'Internet et pas physiquement, c'est encore plus facile d'aller à la recherche de ces infos. Et la mine d'informations qu'on trouve aussi sur Internet permet de se former une culture, une connaissance qui était beaucoup plus dure à avoir à cette époque-là. Ça m'amuse d'ailleurs parce que l'extrait musical que tu as choisi entre complètement en résonance avec mon parcours, parce que moi j'ai deux grandes passions dans la vie, la nature et en particulier les insectes et le rock'n'roll. Et les Beatles, ça a été mon premier émoi de rencontre de la musique quand j'avais 6 ou 7 ans. Mon père a ramené un disque d'un déplacement à Berlin, il l'a mis sur la platine et Twist and Shout à fond la caisse dans la maison. Et alors là, je suis resté scotché et depuis, je suis un grand fan devant l'éternel. Et à cette époque-là, quand on allait chez des amis, je regardais dans la discothèque et si par bonheur je tombais sur un vinyle des Beatles, j'allais demander poliment si je pouvais l'emprunter pour l'enregistrer sur une cassette, parce qu'à cette époque-là, c'était le seul moyen d'augmenter sa connaissance de musique. Et pour la nature, c'était pareil. Il fallait trouver des bouquins, il fallait trouver des clés, et c'était quelque chose qui était difficile à dénicher.
Alors promis, vous qui nous écoutez, nous ne nous sommes pas concertés à l'avance et c'est un pur hasard. Je n'ai pas eu d'indication, même si nous connaissons des gens en commun, sur les goûts musicaux de notre invité. Mais je retiens quelque chose.
C'est le karma. C'est le karma, comme
c'est le
disait
karma.
Georges.
Il n'y a pas de... Exactement, Easton Karma. Et il y a quelque chose de formidable dans ce que vous dites, c'est que d'une part, et depuis toujours, la science des insectes, l'entomologie et les naturalistes, d'une manière générale, peuvent être autant des scientifiques que des amateurs très éclairés. Et donc, c'est ouvert à tous. Et puis, aujourd'hui, les médias, webinaires, MOOC, forums et les outils de sciences participatives, Spipol, allez tous télécharger l'application, permettent d'ouvrir largement les connaissances à tout le monde. Et vous avez donné un mot qui est formidable et qui, à mon avis, constitue un des fondements de notre passion commune à des niveaux très différents pour le vivant et que nous espérons partager avec celles et ceux qui nous écoutent, c'est la curiosité. Alors je ne résiste pas, là pour le coup c'était préparé mais ça tombe très très bien, à ce moment précis de l'entretien, à la tentation de vous lire un autre passage du Vin Bourru de Jean-Claude Carrière qui consacre un chapitre entier intitulé « Insectes ». Il dit ceci, « L'insecte nous révèle la miniature, car il ne fait pas de doute que, dans le corps minuscule de la puce, se dissimule une organisation complexe, un cœur, des poumons, des muscles. En plus, elle nous voit, ou en tout cas, elle constate notre présence, puisqu'elle saute pour nous échapper. Donc, elle réagit, elle résonne, à sa manière, tout cela dans cette tache noire, si agile et insaisissable. La puce nous entraîne vers l'atome, vers la compréhension de l'invisible, où se tiennent les grandes forces. Ce regard sur l'insecte, je l'ai souvent partagé, plus tard, avec Louis Buñuel, de sa formation d'entomologiste, le saviez-vous, il gardait la capacité d'observer pendant 5 ou même 10 minutes, maintenant vous allez consacrer 20 minutes, une simple mouche sur un mur. Et je la regardais avec lui. Assez souvent, il disait « Une mouche est une merveille ». Samuel, que représentent pour vous les insectes ?
Un sujet inépuisable d'émerveillement. Vraiment. Ça a toujours été mon moteur, moi, la curiosité et l'émerveillement. Et c'est aussi ça hein, qui m'a mis dans le bain un matin de fin mai, début juin, où on allait faire un relevé ornithologique sur la réserve naturelle volontaire qu'on suivait pour la LPO avec un bon ami à moi qui m'avait embarqué dans cette affaire. On arrive au bord de cet étang à Bois-le-Roi et une myriade de libellules. J'en avais jamais vu autant. C'était vraiment la pleine période. Et puis, bah, du coup, c'est pas une demi-douzaine d'espèces, je pense, différentes, qui font que quand on est avec son petit guide chinerie, qui était le guide qui permettait de se lancer un peu dans les insectes, il n'est pas assez complet. Hein. On ne comprend pas vraiment ce qu'on a sous les yeux. Et puis, on voit des trucs qu'on n'avait pas eu encore en photo. Donc, on se demande ce que c'est. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore me balader, avoir l'œil qui traîne, remarquer quelque chose qui bouge, m'approcher, me dire « Tiens !» Ça, je ne savais pas que ça existait. Et puis, ou alors, tiens, oui, ça fait longtemps que je le vois sur des bouquins, première fois que je le vois.
Et ça arrive encore aujourd'hui ?
Ça arrive cet été. Là, j'ai vu une trichie, un petit coléoptère qui est très coloré, très joli, qu'on dirait un peu poilu comme un bourdon, se poser sur une table dans mon jardin. J'étais très heureux de cette rencontre.
Alors cet émerveillement permanent, vous le partagez avec passion et on espère qu'il va faire des émules. Mais peut-être un point qui est souvent cité pour plaider la cause des insectes, c'est leur intérêt. Vous nous avez rappelé ce constat alarmant, mais si on prend cette approche purement anthropocentrique, on pense aux services rendus, les fameux, par la nature et en particulier par les insectes. Alors je vais essayer avec mes mots d'en expliquer un, le service dit de pollinisation que vous avez cité tout à l'heure. Plantons le décor. La pollinisation, c'est le transport du pollen, le gamète mâle, de fleur en fleur pour qu'il féconde le pistil, la partie femelle. Est-ce que là, c'est bon ?
Ça va.
Ça va. Je crois que pour un tiers des végétaux qui constituent notre alimentation, notamment les fruits, comme la pomme, qui est un exemple, un vecteur est nécessaire, et en l'occurrence, c'est un insecte. Ce sont plutôt des insectes, compte tenu de la grande diversité. Il y a eu une étude qui est souvent citée, mais les sommes sont gigantesques, j'ai du mal à m'y raccrocher, mais du CNRS et de l'INRA, qui estimait à 153 milliards d'euros l'apport des insectes pollinisateurs aux principales cultures mondiales en 2005. Quels seraient, en quelques grandes lignes, les services rendus par les insectes ?
Ben, celui-là qui est vraiment un service primordial, et c'est quand même assez, on va dire, amusant de remarquer qu'il a fallu qu'on soit capable de lui donner une valeur monétaire pour que ça fasse un pchit dans le cerveau de nos dirigeants. Et encore... un pchit qui n'est pas allé jusqu'au bout, vu ce qu'on peut voir en ce moment. Mais donc, il y a ce côté de la pollinisation. Il y a un autre rôle très, très important qui est le recyclage de la matière, que ce soit des crottes, de la matière morte, animale comme végétale. C'est des myriades d'insectes qui s'occupent gratuitement de ça et qui nous permettent de vivre dans un écosystème équilibré. Hein. On connaît l'histoire de l'Australie où quand le cheptel bovin s'est développé énormément et qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de bousier pour manger les bouses, ils sont allés chercher des bousiers pour les introduire en Australie.
Des bousiers pour pouvoir dégrader les
bouses
de vache.
Dégrader les crottes de vache, ouais, et ce qui a entraîné d'autres histoires improbables, puisque forcément, il n'y a pas de solution simple dans la nature. On a aussi la régulation, parce que mine de rien, tous ces insectes, il n'y a pas que des insectes qui vont s'attaquer aux plantes, il y a aussi des insectes qui vont manger ces insectes qui s'attaquent aux plantes. Et donc le bon équilibre dans un jardin, hein, ça c'est des choses qui sont hyper importantes à comprendre, c'est que si on a des prédateurs autour, les ravageurs, entre guillemets, vont être moins présents. Et c'est un des rôles indispensables des guêpes, par exemple, qui passent leur temps à chasser, qui vont choper des chenilles, des larves phytophages, etc., et qui vont en débarrasser le jardinier.
Donc c'est ce qu'on appelle les auxiliaires et qui est utilisé même dans certaines cultures, ce qu'on appelle la protection biologique.
C'est inspiré de ces équilibres naturels. C'est inspiré de ça, de se servir soit de prédateurs, soit d'endoparasites, c'est-à-dire des insectes qui vont pondre à l'intérieur et puis du coup la larve se développant tue l'hôte. C'est des techniques qui sont mises en place depuis les années 60. Hein. Depuis les années 60, on sait que la chimie pose des problèmes. On sait que utiliser des pesticides à très grande envergure, ça n'a pas un avenir lointain, mais on continue à s'entêter sur la question et ces travaux qui ont été vachement portés dans les années 60-70 sont tombés vraiment en désuétude à une certaine époque. Là, ça commence à revenir un petit peu.
Ouais. Et justement, quels sont les... Alors, d'une manière globale, et puis chacun chez soi, à son échelle, alors si ce sont des urbains qui nous écoutent, c'est peut-être plus limité. Si on a la chance d'avoir quelque part un jardin ou de participer à un jardin communautaire, on a peut-être plus de leviers. Qu'est-ce que globalement et localement on peut faire pour endiguer le déclin des insectes ?
On peut faire énormément de choses à son échelle qui seront des petites choses et qui seront des petits pas qui vont participer au global. Reste que la vraie solution, ça sera de changer de modèle agricole et de modèle de consommation. Hein, mais ça, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait prêt. Dans un jardin, très simplement, il faut apprendre à regarder la nature sauvage se développer, à l'accepter. C'est pas la peine de l'accepter dans tout le jardin. Un petit bout de jardin suffit pour préserver les espèces. Par exemple, on peut laisser pousser un petit bouquet d'orties dans un coin où on va pas. Parce que les orties, ben, c'est une plante qui héberge plus de 5 espèces de papillons.
5 espèces de papillons.
Elles ont besoin de l'ortie pour se nourrir à l'état de chenille. Et elles ne vont pas sur une autre plante. Donc ces plantes qui sont très communes et qui permettent à des papillons qui étaient autrefois communs de se développer, si on les éradique complètement, ben, on éradique c'est aussi les espèces qui vont avec.
Et en plus, l'ortie, ça fait d'excellentes soupes.
Il paraît, ça j'ai pas encore testé.
C'est très très bon. Voilà.
Et donc ça c'est un exemple très simple.
Donc c'est retrouver une forme d'équilibre.
Retrouver une forme d'équilibre
entre ce qui nous est utile et ce qui a priori nous est hostile et ne nous est pas directement utile, qui fait partie
oui,
de l'écosystème.
Oui, c'était ce que je voulais dire, c'est qu'il faut changer son regard. Arrêter de voir un insecte comme un agresseur, arrêter de voir la nature comme quelque chose d'hostile. S'ils sont là, il y a forcément une raison d'équilibre et ils sont pour la plupart du temps pas du tout intéressés par ce qu'on fait et ce qu'on est, et on peut très bien vivre côte à côte sans s'embêter. Et au contraire, en laissant la nature s'exprimer un petit peu, la plupart du temps, on en tire des bénéfices.
Je pourrais citer les Inconnus, qui dans les années 80 nous ont dit « les insectes sont nos amis, eh oui. Il faut les aimer aussi », et qui citaient bien les services rendus.
Ça,
et...
Moucham.
Exactement, Moucham. Voilà. Merci Samuel. Alors, peut-être une avant-dernière question, un petit peu plus personnelle, alors que vous venez de fêter 2 décennies d'activisme, en tout cas d'action pour les insectes et leur environnement. Si vous aviez une fierté, des travaux ou une action qui a porté ses fruits, que vous aimeriez citer de ce que vous avez, ces 2 décennies que vous avez pu observer, laquelle serait-elle ?
La plus visible, enfin en tout cas la plus visitable hors contexte Covid, oui. C'est la Maison des insectes à Carrières-sous-Poissy. Ça a été un aboutissement vraiment, vraiment exceptionnel. On a toujours eu un petit lieu où on accueillait les classes avec une exposition d'insectes vivants, etc. Mais c'était un lieu qui avait été monté en 72, qui était complètement désuet et qui posait des problèmes de sécurité, donc on a dû fermer en 2007. Et on cherchait un endroit pour pouvoir accueillir le public et sortir juste du cadre scolaire, pouvoir aller vers le grand public et avoir quelque chose de vraiment qualitatif pour parler des insectes, émerveiller les gens, leur faire changer leurs a priori, etc. Et ça, c'est un projet qui a été rendu possible sur le parc du Peuple de l'Herbe, à Carrières-sous-Poissy, grâce au concours d'une communauté urbaine qui est la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise et du département des Yvelines. Ça a été un projet de longue haleine qui nous a bien tenus et puis qui a connu ses aléas, hein, comme tout gros projet porté par la puissance publique. Et donc voilà, cette maison des insectes a été inaugurée en septembre 2017. C'est vraiment un lieu muséographique très chaleureux, avec une expo très simple dans laquelle notre manière d'aborder la pédagogie est plutôt d'aller vers les visiteurs. Il y a toujours un médiateur qui est là et qui va raconter des tonnes d'anecdotes sur les bestioles, pouvoir entrer en question-réponse avec les visiteurs. Une volière à papillons qui est le clou du spectacle pour la plupart de nos visiteurs. Moi, j'ai un petit faible pour d'autres vivariums, mais bon, c'est chacun ses goûts. Et puis, cette maison des insectes est logée sur un parc magnifique dans lequel on peut faire des balades sur une boucle de Seine avec une berge qui a été reprofilée. Alors moi, qui adore les milieux aquatiques, je suis très attentif à ce milieu parce qu'on va voir des insectes la recoloniser. Ça va être vraiment intéressant.
Eh bien, le rendez-vous est pris. C'est un message important que vous faites passer, c'est la médiation, le fait que même si on se sent très étranger, très éloigné du sujet, eh bien, nous avons des confrères, des congénères qui peuvent nous prendre la main et nous montrer, nous ouvrir à la connaissance du vivant. Et vous avez cité beaucoup de médias, mais se voir physiquement et avoir ce lien avec les animateurs, c'est important. Donc rendez-vous à la Maison des Insectes dans le parc du Peuple de l'Herbe à Carrières-sous-Poissy. Et puis dernière question courte, façon portrait chinois qui attend une réponse courte. Si vous étiez un insecte, lequel seriez-vous ?
Un cordulégaster.
Mais encore ?
Une grosse libellule jaune et noire qui vit dans les petits ruisseaux dont la larve se tapit dans les sédiments pour saisir ses proies et puis qui, une fois qu'elle naît, est vraiment des joyaux de notre faune. C'est une libellule magnifique avec des grands yeux verts. Les libellules ont des yeux composés avec plus de 20 000 facettes. C'est complètement fascinant de se dire que quand on croise une libellule, elle nous voit 20 000 fois à travers ses yeux.
Eh bien, 20 000 facettes, c'est une invitation à la fête sous une autre forme, puisqu'en ce moment, les boules à facettes sont plutôt délaissées. Une invitation à aller observer les libellules. Je rappelle, avant de conclure, l'adresse du site internet de l'OPI, c'est insect.org, insect avec un S.org. Vous y trouverez beaucoup de renseignements, l'itinéraire pour aller à la Maison des Insectes.
Tout à fait.
Et puis les ressources bibliographiques nombreuses, ainsi que la composition de l'équipe et des antennes, les fameuses de l'OPI.
C'est ça. Une petite info aussi sur un événement là, qu'on va porter le 14 avril.
Oui.
On devait le faire à l'occasion de nos 50 ans en décembre 2019. Ça a été reporté pour cause de manif gilets jaunes, ensuite pour cause de Covid. Donc là, on a fini de vouloir le faire en manière présentielle et on le fera de manière digitale. Donc ça sera accessible à tous. C'est un webinaire qui s'appelle « Demain des insectes ?» point d'interrogation, sur lequel on va revenir sur beaucoup de choses qu'on a abordées aujourd'hui et où on fera des petites apparitions plus sympas, plus interactives avec le public.
Et bien voilà, avant de se retrouver en vrai, chères auditrices, chers auditeurs, nous espérons que cet itinéraire rampant, volant, de zones humides en sauts de puces, de sauterelles en libellules, vous aura permis de mieux découvrir l'entomologie, la science des insectes, et même que vous avez des papillons dans le ventre, en pensant aux chenilles, aussi indispensables aux écosystèmes qu'elles sont urticantes. Samuel, merci d'avoir été notre interprète.
Merci Pierre.
Et cette émission a été possible grâce à la ténacité de Sylvain et Olivier, avec à la technique Jason, Baptiste et Théo. Merci à tous, portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.